Bienvenue à tous et à toutes pour ce premier samedi du Studium. Alors je me réjouis du succès de ce premier samedi du Studium. Ça fait partie de la mission du Studium d'aider les baptisés à nourrir, approfondir leur foi et aussi à réfléchir pour comprendre le monde où nous vivons, ces questions, pour pouvoir se situer en chrétien aujourd'hui. Nous commençons ce samedi du Studium alors qu'il y a un débat important au Parlement en France sur des questions difficiles. Et donc, je me réjouis que vous soyez nombreux à venir assister à ce samedi du Studium. Je remercie le Père Gilles Garcia, qui est la cheville ouvrière de ces samedis du Studium. Il y en aura 14 tout au long de l'année sur des sujets assez différents. Et puis donc, nous commençons sur un sujet d'anthropologie. Et donc, merci aussi à Marine qui va intervenir avec le Père Gilles sur ces sujets si importants. Voilà, bonne matinée.
Donc bonjour à tous et à toutes, c'est une joie de vous voir si nombreux. J'espère qu'on ne vous fera pas fuir. Alors comme le disait le Père Jean-François, il y a ce débat sur la loi bioéthique qui se déroule aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il y a toutes ces questions autour de l'homme, du transhumanisme, de la théorie du genre, de la marchandisation des corps aujourd'hui. Et donc, il nous a paru intéressant de faire un cycle d'anthropologie, de regarder l'homme, de nous émerveiller de nouveau sur ce qu'est l'homme. Et puis, l'homme, c'est l'homme et la femme. Alors, pour moi, c'est une grande joie que ce cycle d'anthropologie, qui aura quatre conférences, sera à chaque fois fait par un homme et une femme. Voilà. Alors, comme disait Montaigne, nous sommes frottés et limés la cervelle contre celle d'autrui. Et c'était un bon frottement et une bonne lime. Et je voudrais simplement vous indiquer les quatre grands thèmes que nous avons choisis, puis un peu la manière dont nous allons travailler. Parce que les philosophes, ils n'aiment pas faire comme tout le monde. Donc, ils prennent souvent des retraits ou des détours. Alors, il y aura quatre grands thèmes. Nous avons réfléchi et travaillé sur quatre grands thèmes. Le premier d'aujourd'hui, c'est celui sur l'homme comme être de chair et d'esprit. Finalement, c'est une réalité assez mystérieuse, énigmatique que l'homme. Et comment comprendre qu'il soit en même temps de l'esprit et de la matière, de la chair? Comment ça s'articule? Comment le comprendre? Est-ce qu'on peut le penser? Comment le vit-on? Et puis l'homme ou la femme, donc quand je dis l'homme, on va dire l'homme en général, le générique, qui embrasse l'homme et la femme, comme ça, ça évitera. C'est aussi un être qui est incarné dans une histoire, dans le temps. Alors on a pensé que dans la deuxième conférence, pourrait être cet homme qui est dans l'histoire et dans une histoire. Donc, penser la temporalité de l'existence. Comment vivre les médiations? Comment prendre du temps alors qu'on est dans un monde qui nous invite à l'immédiateté, au pulsionnel, à la réponse immédiate? Qu'est-ce que cela veut dire pour l'homme que de croître, que de grandir? Et puis aussi, le rapport aux âges de la vie, de la naissance à la vieillesse. Ensuite, l'homme n'est pas simplement un être dans le temps, il est aussi un être dans l'espace, un être en mouvement, il est nomade et en même temps enraciné. Il vient d'une terre, il vient d'une culture. Donc qu'est-ce que c'est que habiter un lieu? Qu'est-ce que c'est qu'habiter une maison commune? Comment se rencontrent nos cultures? Est-ce que c'est le clash des civilisations ou est-ce qu'il est possible de se rencontrer? Et toute la question de l'hospitalité. Et puis enfin, l'homme, être de chair et d'esprit, est un être de parole. Chacun de nous avons une voix. Alors ce sera la dernière séance, et à travers cette parole, qu'est-ce que c'est que donner sa parole? Est-ce que l'homme est un être de... le seul animal qui promet, disait Nietzsche. Donc, qu'est-ce que c'est que cette liberté de l'engagement? Comment tenir l'engagement? Voilà. Donc, ce sera le thème de la parole, du don et de la liberté. Alors, ce qu'on voudrait, parfois, plutôt que d'affronter des problèmes et d'essayer de donner des réponses, on voudrait plutôt vous faire vivre une expérience. Donc, en tout cas pour aujourd'hui dans cette séance. Et donc, on s'est beaucoup attaché à des auteurs plutôt de ce qu'on appelle en philosophie la phénoménologie. Donc, qui, à travers les textes qu'on a sélectionnés, on va essayer de vivre une expérience, de saisir, de regarder l'homme, être de chair et d'esprit, pour nous en émerveiller, puis des fois pour en saisir la difficulté aussi. Donc parfois, ce sera peut-être loin des préoccupations d'aujourd'hui, mais en fait, vous verrez que c'est au cœur de la saisie de l'homme, voilà, et de la difficulté à saisir l'homme. Cette difficulté, elle ne date pas d'aujourd'hui. Et je voudrais terminer en vous citant un texte d'un père de l'Église du IIIe siècle, qui s'appelait Tertullien. Et il s'adresse à un homme, un gnostique, donc des hommes qui détestaient la chair, qui détestaient la matière, et voilà ce qu'il lui dit. Par conséquent, si tu ne refuses à Dieu l'incarnation, ni parce que tu l'estimerais impossible, ni parce que tu l'estimerais périlleuse pour lui, il reste que tu la rejettes et que tu la dénonces comme indigne de lui. Donc Dieu ne peut pas s'incarner. Exposant dès l'exorde ta haine de la naissance, allons, pérore maintenant sur cette ordure qu'ont mise dans le ventre les éléments génitaux, sur ces hideux caillots de sang et d'eau, sur cette chair qui doit pendant 9 mois tirer sa nourriture de ce fumier. Décris-nous donc ce ventre plus monstrueux de jour en jour, alourdi, tourmenté et jamais en repos, même dans le sommeil, sollicité de part et d'autre par les caprices de l'appétit et du dégoût. Donc, il parle d'une femme qui est enceinte. Déchaîne-toi maintenant contre les organes indécents de la femme en travail, qui l'honorent cependant par le danger qu'elle court et qui sont naturellement sacrés. Apparemment qu'il te fait peur, cet enfant rejeté, avec armes et bagages, et que tu le dédaignes encore une fois débarbouillé, parce qu'il faut le maintenir dans des langes, le pétrir de pommade et le faire rire par des caresses. Tu méprises, Marcion, cet objet naturel de vénération. Et comment es-tu né? Tu es la naissance de l'homme, et comment peux-tu donc aimer quelqu'un? Donc vous voyez, Tertullien estime que celui qui a en horreur la naissance de l'homme et toutes ses charnelles et fragiles circonstances, à l'homme lui-même en horreur. Alors, plongeons dans la chair de notre humanité. Je voulais vous signaler que le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France a sorti un petit livre, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ?» Voilà, donc vous pouvez aussi l'acheter, c'est 5 €, c'est pas cher. Et puis, voilà, c'est un résumé de l'anthropologie chrétienne.
Bonjour. Alors, ce n'est pas le conseil permanent de la Conférence des évêques de France, et ça ne coûte pas 5 €, mais 3,90 €. Voilà. Je remercie Christine qui m'a donné ce livre. Sylvia Nagasinski, qui est une philosophe qui parle souvent dans les médias en France, a publié un tract, une collection de réflexions de philosophes sur des sujets d'actualité. Et donc elle a publié ce tract cette année par rapport justement au débat bioéthique en cours. Le titre est significatif, l'homme désincarné, du corps charnel au corps fabriqué. Et elle commence en disant que le rêve de surmonter les limites de l'existence charnelle, le rêve, le désir d'être, oui, de s'évader de son corps ou d'en acquérir un autre, est peut-être aussi vieux que l'homme lui-même. Bien des fables et des mythes antiques en témoignent. Oui, que le désir d'être délivré de la chair, de la nature, de l'animalité, de la vie et donc de la mort aussi, est aussi vieux que le monde. Il a alimenté de nombreux mythes. Sauf que maintenant, du mythe, la civilisation technique semble avoir fait impossible. La médecine a la possibilité d'aller bien au-delà de sa fonction qui était de soigner. On lui demande de modeler le corps humain et de rendre possible, par la contribution de la technique, ce qui transcende, ce qui dépasse radicalement les déterminations naturelles du corps. Et nous en venons à un état, je pense qu'on en fait tous l'expérience, où parfois le corps vivant et ses lois de fonctionnement nous scandalisent même pour nous-mêmes. La fatigabilité, le besoin de sommeil, la maladie. Cela nous met en colère, cela semble une limite à l'immédiateté de la satisfaction de notre désir. Je pense qu'on a tous l'expérience d'avoir été énervé parce qu'on sent qu'on est en train d'attraper un rhume, qu'il n'y a pas de médicament pour le guérir, qu'on en aura pour une semaine et qu'on avait tant de choses à faire et qu'on ne sera pas efficace. Voilà. Et plus sérieusement, dans notre civilisation pressée, exigeante, avec une pression qui pèse sur nous, il n'est pas toujours facile de consentir, par exemple, aux fatigues et au temps d'arrêt que signifie le temps d'attendre un enfant. Et surtout quand c'est peut-être un deuxième enfant. Voilà, ou un troisième. Nous ressentons les lois naturelles du corps comme une limite étrange à notre pouvoir d'agir, qui est par ailleurs si puissant, si efficace. Mais en même temps, nous sentons de plus en plus aussi, et c'est paradoxal, combien découvrir et respecter ces limites naturelles du corps, ces lois naturelles, combien c'est une clé pour une vie vraiment humaine. Combien il faut se reposer, avoir une vie équilibrée, ne pas épuiser son corps avec du fast-food. C'est plus à la mode les fast-food. Maintenant, c'est dans les fast-food, on mange des salades, de la quinoa, du tofu et tout ça, plein de choses qui sont bonnes pour la santé. Nous voyons aussi plus sérieusement dans le souci même politique qui est porté parfois au rythme de l'enfant dans la recherche éducative et plus largement dans la recherche générale d'un mode de vie plus naturel, qu'il s'agisse de nutrition, de logement, de transport, de relations aussi. Et ce serait bien présomptueux et injuste de ne voir dans ces mouvements de société qu'une recherche finalement hédoniste de sophistication, de maximisation du plaisir. Et pourtant, en même temps, la force du désir et de la volonté individuelle qui s'allie à la formidable puissance technologique semble mettre à portée de main, à portée de décision, à portée de bistouri parfois, la pulvérisation de certaines limites naturelles, et en particulier celles qui sont liées à la sexuation de l'homme, le fait qu'il soit un homme ou une femme, et aux lois de la génération. Si vous voulez ou rire ou être désespéré, vous pouvez aller lire Les Inrecuptibles qui commentent un festival qui a commencé il y a 3 jours qui s'appelle Sortir de l'hétérosexualité. Si ce n'était pas réel, on passerait vraiment un bon moment à rire sur ce qui est écrit, avec une négation complète de toutes les déterminations naturelles qui sont inscrites dans le corps et qui sont exploitées par la culture. Voilà. L'hétérosexualité étant finalement... La binarisation, le fait qu'on ait un corps masculin et féminin étant interprétée même comme une conséquence d'un modèle de société, de domination masculine. Même la biologie est interprétée comme étant le produit d'une organisation sociale et d'une organisation sociale de domination masculine. Et c'est démontré par Jean très sérieux. Et donc, si la réalisation du mythe de l'affranchissement des limites charnelles est à portée de main ou à portée d'acte, alors la question du rapport de l'homme à son corps devient une question politique. Une question politique, c'est-à-dire quelque chose dont il faut qu'on débatte, sur lequel une société doit faire des choix, qui est au principe de décision qu'on a à prendre ensemble. Voilà. Il faut en débattre, il faut en parler, parce qu'on n'est plus dans l'ordre d'une nécessité qui s'impose. Il n'y a pas de nécessité. Il y a donc des choix à faire en tant que société. Et ces choix que nos sociétés ont à faire impliquent, de manière explicite ou non, de se poser les questions suivantes. Certes, nous ne nous réduisons pas à notre corps, mais notre corps est-il pour autant quelque chose que nous avons ? Est-ce que le mode de l'avoir est suffisant pour dire quelque chose du rapport à notre corps ? Plus fondamentalement, notre corps porte-t-il en lui-même une signification, du sens, quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit ? Ou bien est-il le matériau en soi neutre qu'utilise une liberté qui serait désincarnée ? Donc matériau neutre, la matière d'un côté, et la liberté de l'autre qui est désincarnée, qui est l'ordre de l'esprit. Et c'est cette dernière interprétation qui semble sous-tendre, nous allons y revenir, bon nombre de nos choix sociaux. Et pourtant, penser le corps sans signification propre, d'un côté, et la liberté, donc la vie de l'esprit sans incarnation, c'est un appauvrissement aussi bien de la vie charnelle que de la vie de l'esprit, et donc un appauvrissement de la vie humaine. Et donc ce matin, nous voudrions nous émerveiller de ce que les hommes vivent dans leurs conditions incarnées et redécouvrir que l'incarnation a part à la vie de l'esprit, voilà, à notre existence en tant que personne. Une personne qui est à la fois un être de relation et un être unique qui est doué d'une conscience inviolable. Voilà le plan de la matinée. Enfin, les grands titres, et vous aurez tout le plan qui va dérouler sur le montage. Donc l'homme, un être spirituel jusque dans sa chair, charnel jusque dans son esprit, sous plusieurs modalités, on va aborder cette question-là. Et ensuite le corps, il y a quand même une tension entre le corps et l'esprit. Donc ce sera l'objet de la deuxième partie. Et puis, en allant plus loin dans la lecture, le regard sur notre nature incarnée, nous verrons que l'incomplétude, la vulnérabilité du corps sont en fait des lieux de relation. Donc c'est parti.
Eh bien, regardons l'homme tel qu'il apparaît. Tous, nous sommes nés nus. Alors je voudrais vous partager un texte que vous avez sur votre feuille, le premier, qui date d'un philosophe très ancien, qui s'appelle Aristote. Et voilà ce qu'il dit. Aussi, ceux qui disent que l'homme n'est pas bien constitué et qu'il est le moins bien partagé des animaux, parce que, dit-on, il est sans chaussures, il est nu et n'a pas d'armes pour combattre, sont dans l'erreur. Car les autres animaux n'ont chacun qu'un seul moyen de défense, et il ne leur est pas possible de le changer pour un autre. Mais ils sont forcés, pour ainsi dire, de garder leurs chaussures pour dormir et pour faire n'importe quoi d'autre, et ne doivent jamais déposer l'armure qu'ils ont autour de leur corps, ni changer l'arme qu'ils ont reçue en partage. L'homme, au contraire, possède de nombreux moyens de défense, et il lui est toujours loisible d'en changer, et même d'avoir l'arme qu'il veut et quand il veut. Car la main devient griffe, serre, corne ou lance ou épée, ou toute autre arme ou outil. Elle peut être tout cela parce qu'elle est capable de tout saisir et de tout tenir. Alors derrière ce texte simple en apparence, Aristote nous dit des choses profondes, et j'en retiens une ou deux. La première, c'est que la nudité de l'homme se montre comme un dépouillement de tout ce que revêtent les autres animaux. Et donc, la nudité de l'homme manifeste son essentielle exposition. Ce que nous voyons dans le corps nu du nourrisson, c'est un être livré qui est sans protection, livré au péril et à la menace. La nudité révèle un être dénué, désarmé, découvert, qui fait paraître le manque. Et d'une certaine manière, cette nudité, rien ne peut l'abolir. Car seul celui qui est nu peut se revêtir de quelque chose. Et l'impossibilité de se dévêtir ou de se déchausser, qui est attribuée aux animaux par Aristote, n'a rien de naïf en fait. Elle manifeste que l'animal, justement, est sans exposition et qu'il est toujours, d'une certaine manière, dans une insécurité. Vous voyez, dormir avec des sabots, pour Aristote, ça caractérise un être qui est toujours sur le point de fuir. Ou peut-être que vous avez fait cette expérience quand on marche dans la campagne et que tout d'un coup, on tombe sur un animal. Immédiatement, s'il nous renifle, il va se fuir. Alors que nous, nous aurions plutôt une manière d'être qui est d'accueillir ou de nous approcher, de nous exposer à cet être qui vient à nous ou vers lequel nous allons. Alors, si c'est un gros léopard avec une grosse griffe à la place de la main, voilà, là, on va fuir aussi. Et pourtant, mais avant de fuir, on va quand même l'observer, le regarder. Et peut-être même s'émerveiller. Bon, après, il faut cavaler rapidement. Hein. Alors, je reviendrai dessus, on reviendra, c'est un thème qu'on partira, mais nous nous mettons nus et nous désarmons nous-mêmes hein, que lorsque nous sommes en sûreté, souvent le soir, lorsque nous allons dormir, où il faut savoir s'abandonner. Nous reviendrons là-dessus. Plus important, la nudité de l'homme, pour Aristote, elle se manifeste, elle se concentre dans la main, hein, c'est la fin du texte. La main comme possibilité universelle, vous voyez, de saisie, de prendre les choses, et qui pour Aristote en fait révèle la possibilité de tout être, de pouvoir tout devenir. Et cette possibilité manifestée dans la chair, dans la main, de pouvoir tout devenir, en fait, est le signe pour Aristote de l'esprit qui affleure. Car l'homme, par rapport à tout autre être, a cette possibilité d'accueillir en lui tout être. Il a la possibilité de pouvoir devenir toute chose. Et donc, comme dira saint Thomas, l'âme, en commentant ce texte, il dira « l'âme humaine est comme la main ». L'âme est vide et nue, c'est pourquoi elle peut tout devenir. Si vous voulez, c'est le processus d'intériorisation, vous voyez, de recevoir le réel, tout comme la main peut tout devenir et prendre aussi ce réel. La main comme l'âme sont vides et nues, et donc pour Aristote, c'est une sorte d'entre-là où, à travers notre nudité originelle, apparaît l'esprit, et à travers le corps, nous pouvons saisir ce qu'est l'esprit. Il est donc difficile pour Aristote de concevoir l'homme comme une dualité d'âme et de chair, de matière, mais plutôt comme une unité mystérieuse. Ça va ?
La main est efficace, mais pas toujours quand même. Alors en fait, on a une illustration qui est, en entendant le texte, je me suis dit, l'illustration n'est pas du tout adéquate. Je vous la montre quand même, pas vous détendre. Eh ben, ça ne veut plus, c'est un signe. Donc voilà, les pieds, les autres pieds, les animaux devant garder leurs chaussures, et nous, nous pouvons imiter les chaussures des animaux, mais nous pouvons en mettre plein d'autres. En fait, ce n'est pas adéquat, parce qu'on aurait dû mettre toutes les chaussures des animaux et juste la main pour l'homme. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Aristote, il semble reprendre ici un mythe, une interprétation qu'on voit chez Platon. Vous connaissez sans doute le mythe de Prométhée et Épiméthée chez Platon. En fait, Platon raconte comment, les qualités, les moyens de défense ont été répartis entre tous les êtres vivants. Alors, il y a Épiméthée, c'est le jeune frère, il est insensé. Et donc, il demande à Prométhée, son grand frère, de faire la répartition. Donc, les animaux défilent devant lui et il leur met une fourrure, il leur met des cornes, il leur met des sabots pour courir, des trucs pour courir vite, il leur met des griffes, il leur met des pics comme les hérissons. Enfin, il distribue tout de manière équitable pour que la nature fonctionne bien. Mais Épiméthée, il est étourdi. Et donc, il a vidé toute sa réserve et arrive le dernier, qui est l'homme. Et l'homme n'a plus rien. Et donc, il est tout gêné, il va voir son grand frère, et qu'est-ce que je vais faire ? Et du coup, Prométhée, pour réparer la bêtise de son petit frère, va voler le feu chez les dieux, et il va voler le feu et l'art de la technique dans l'atelier d'Héphaïstos d'Athéna. Voilà. Et donc, en fait, pour Platon, la nudité de l'homme, c'est vrai, et on retrouve cette interprétation au début chez les philosophes qui ont fait de l'anthropologie au début du XXe siècle, c'est vraiment une forme de déficience dans la nature. Il lui manque quelque chose, mais ce quelque chose, il le compense par la technique. Donc par son intelligence pure, technique. Voilà. Et en fait, ce que dit Aristote, ce n'est pas tout à fait pareil, et c'est très intéressant. Donc, vous voyez, Platon, l'homme dans son corps, il est le plus faible de tous les êtres vivants. Mais il compense ça par la technique, par son intelligence. Sauf que Aristote dit, en fait, la vie de l'esprit, l'intelligence de l'homme, elle est déjà inscrite dans son corps. C'est une potentialité de son corps, de sa main. Et du coup, les outils, ça va être des prolongements de la main. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient simplement de son esprit, mais cette réalité, cette qui est une puissance, du coup, de l'homme, capable de tout devenir, est inscrite dans sa chair. Voilà. Aristote nous a montré donc comment le corps, déjà, était signe de l'esprit. Et cela pointe vers une union plus profonde que celle de deux réalités qui se ressembleraient simplement. Il y aurait une ressemblance entre le corps et l'esprit. Parce que le corps est en lui-même lieu de sens, de signification. Alors, le père Gilles vous parlait de détour, en voilà un. Dans une très belle conférence que certains connaissent peut-être, Marguerite Léna décrit et interprète ce sentiment qu'est la pudeur. Un sentiment qui nous conduit au point de contact entre la conscience, la vie de l'esprit, la liberté, et l'ordre biologique, donc la chair. Et du coup, je vous propose, vous avez un extrait sur votre feuille, que nous parcourions un petit peu cet article-là, ce texte-là. Ceux qui le voudraient en entier, on pourrait le photocopier, parce qu'il est beau, pour percevoir un petit peu ce qu'elle nous dit. Donc, comme le respect. Alors, elle nous dit que la pudeur est à la fois un sentiment, c'est quelque chose qu'on ressent, donc qui est voilà, dans la sphère émotionnelle, et en même temps, elle dit que c'est aussi un sens. On dit de quelqu'un qu'il a le sens de la pudeur, ou ne pas avoir le sens de la pudeur. Un sens, c'est quelque chose qui nous donne de percevoir quelque chose. Donc une capacité à percevoir une réalité. Et donc elle va interpréter les deux. Qu'est-ce qui se manifeste dans ce sentiment? Et puis qu'est-ce que la pudeur nous donne de percevoir? C'est une porte qui s'ouvre, mais vers quoi? Voilà. Donc elle commence par le sentiment. Et elle dit que comme le respect, l'admiration ou l'indignation, trois sentiments, elle dit que la pudeur est un sentiment moral, c'est-à-dire un point de tangence entre la sphère en nous affective, émotionnelle, où le sujet, c'est-à-dire l'homme, est réceptif, il est affecté, passif, par ce qui lui advient. Donc un point de tangence entre notre affectivité et puis la sphère morale, notre liberté en fait, donc là, où l'homme est engagé activement comme personne libre. Mais ce sentiment, dit-elle, nous touche et sollicite, appelle notre liberté de manière plus intense et plus originaire que les autres sentiments moraux, pour une double raison. D'une part, il se greffe de façon immédiate, irréfléchie, pas besoin de penser, intuitive, sur l'ordre biologique et ses affects que l'homme partage avec le monde animal et plus précisément sur sa nature corporelle sexuée. Si bien que tout ce qui concerne la transmission de la vie, organes et actes, est le premier et principal objet de la pudeur. Donc d'une part, il est greffé sur l'ordre biologique que nous partageons avec les animaux. Mais d'autre part, ce sentiment est totalement étranger au monde animal. C'est une émotion spécifiquement humaine, exprimant la manière dont l'homme, être de chair et d'esprit, assume sa corporéité, le fait d'être incarné, tout en s'en distinguant, et atteste par là son identité originale, et vous voyez d'où vient le titre de la partie, d'être spirituel jusque dans sa chair, et charnel jusque dans son esprit, selon l'expression augustinienne. Alors Max Scheler, un philosophe de la première moitié du XXe siècle, qui a inspiré Jean-Paul II beaucoup. Donc Max Scheler souligne à cet égard que le lieu propre du sentiment de pudeur est le point vif où la conscience prend contact avec l'ordre vital, non par une pensée claire de maîtrise souveraine, mais par un sentiment confus d'auto-affection de la chair par l'esprit et de l'esprit par la chair, renvoyant, il manque un R, à ce clair-obscur qu'est à elle-même la nature humaine. Quant à Solofiev, un autre philosophe, il affirme que le sentiment de la pudeur non seulement sépare l'homme de l'animal, mais que par lui, l'homme se sépare de toute la nature matérielle et se découvre au sujet moral. Donc voilà pour ce sentiment qui est paradoxal, puisqu'il s'organise, il s'insère de manière très profonde dans notre chair et en même temps, il transcende l'ordre biologique et le monde animal. C'est un sentiment spécifiquement humain qui touche très profondément la conscience. Alors ce sens, qu'est-ce qui nous dévoile le sens? Qu'est-ce qui nous donne de percevoir? Comment caractériser maintenant le sens de la pudeur, demande-t-elle? La manière la plus brève, la plus rapide de le faire, est de le relier à l'idée de frontière ou de séparation entre deux domaines ou deux ordres de réalité, le voilé et le dévoilé, le visible et l'invisible, le dicible et l'indicible, l'intime et le public. Et ça, c'est intéressant ce qu'il dit ensuite. Lorsque cette ligne de partage, ce seuil, est transgressé ou aboli, ce qui définit très exactement l'impudeur, la part de réalité que protégeait la pudeur n'est pas manifestée, comme on pourrait l'attendre d'un phénomène qui passe de l'ombre à la lumière. Elle est profanée, c'est-à-dire qu'elle perd sa propre signification et en revêt une autre. Donc la nudité, par exemple, elle n'est pas manifestée dans sa nature propre. Elle est profanée, elle perd sa propre signification, qui pourrait être une véritable signification, et elle en revêt une autre, elle devient inconvenante ou banale, incongrue, grossière ou provocante. On pourrait donc, en première approche, définir le sens de la pudeur comme le sens de l'intime. À ce titre, il concerne le corps en tant qu'il est mon corps, c'est-à-dire à la fois un corps visible, tourné vers le dehors, et un corps intime, s'éprouvant, sentant et sensible. Le sens de la pudeur révèle que mon corps est irréductible à la fois à son extériorité matérielle et spatiale, à ce que d'autres peuvent en voir, en percevoir, comme à ses fonctions biologiques, à toute la physiologie, le métabolisme, tout ça. Le corps ne peut pas se révéler à ça, des plus basses aux plus hautes. Donc il révèle mon corps en tant que plus que ça. Et ce sens concerne également la conscience en tant que fort interne, intériorité présente à soi et dérobée au monde, et il la révèle, la conscience, comme inviolable au conditionnement et pression extérieure. Ce sens de la pudeur me révèle que j'ai une intériorité propre, que je ne suis qu'à moi d'une certaine manière, et que j'ai une conscience qui ne peut être à la merci de la volonté d'autrui. Enfin et surtout, ce sens concerne la personne humaine en son indécomposable et pourtant fragile unité. C'est important ça. Voilà, il est, comme Carole Wojtyła l'affirme dans Amour et responsabilité, ce qui révèle la valeur de la personne, irréductible à toute autre réalité du monde. Voilà. Et cela non de façon abstraite, ainsi de suite, mais de façon vivante et concrète, à la fois liée aux valeurs du sexe, quoique supérieure à elles en même temps. Et cette réalité est vulnérable, et nous le savons bien. L'expérience nous apprend qu'elle est une réalité très vulnérable. Le sentiment de pudeur tôt apparu chez l'enfant, de manière souvent naturelle, doit s'éduquer. Il peut s'émousser et se perdre. Quant au sens de la pudeur, la frontière qu'il garde est exposée et fragile. Entre la pudibonderie, c'est une pudeur excessive où on se couvre tout ce qu'on peut se couvrir et où on a honte de tout. La pudibonderie qui la transforme en mur de béton et l'impudeur qui l'ignore ou la transgresse délibérément, la voie est étroite et l'équilibre délicat. Or, cet équilibre est actuellement remis en cause. Il suffira d'évoquer trois formes particulièrement significatives de cette remise en cause. Alors, je n'ai pas mis la totalité de l'article, mais en fait, elle en parle dans le domaine de la sexualité, en particulier par la pornographie, alors qu'elle dit que le rôle de la pudeur par rapport à la sexualité serait que, justement, elle dit, la pudeur veille à ce que les gestes de l'amour demeurent expressifs de l'intériorité personnelle. Voilà. La pudeur veille à ce que les gestes de l'amour demeurent expressifs de l'intériorité personnelle. Et elle va interdire, dans la conscience de la personne, tous les gestes de l'amour qui ne sont pas expressifs de l'intériorité personnelle. Donc,
C'est compliqué.
Le contenu ou ce qu'elle dit?
C'est compliqué à vivre, vous voulez dire? À faire?
C'est compliqué à vivre. Et oui. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la sainteté là-dedans. Vous allez voir justement, elle va dire que ce qui est en jeu, c'est aussi notre vie intellectuelle et notre vie spirituelle et notre vie relationnelle en fait. Du coup, c'est... Merci. Le deuxième domaine, ou la forme de remise en cause, elle en parle par rapport à la parole. Elle dit finalement, dans un monde où on vit dans un espèce de flux de parole, si vous écoutez France Info, il faut 24 heures sur 24 qu'ils aient, les pauvres, quelque chose à dire. Et donc la parole, dans ce cas-là, elle ne naît pas du silence, elle ne retourne pas du silence. Et donc elle n'a pas de profondeur, d'épaisseur, j'en sais rien, je ne veux rien dire contre les journalistes de France Info, mais il n'y a pas forcément d'intériorité. Ce n'est pas une parole qui est née d'une réalité qui a fécondé mon esprit et qui, jusqu'à me permettre de prononcer une parole, s'il faut toujours avoir quelque chose à dire. Ou le télévisuel médiatique où tout est montré, où vous avez les images de la guerre, en haut vous avez les cours de la bourse, et à côté vous avez la météo, et puis en dessous vous avez le chat sur le match de foot. Voilà. Elle dit, il y a une certaine pudeur ou chasteté du regard qui laisse exister le réel tel qu'il est et s'y rend assez disponible pour en accueillir l'altérité, le fait d'être autre, et pour en éprouver la profondeur. Il y a aussi des, en particulier dans la presse écrite, mais pas seulement, parfois dans un reportage radio, il y a des journalistes qui savent accueillir l'altérité du réel et en éprouver la profondeur. Et vous n'allez pas ressortir pareil d'avoir écouté cette émission de radio, puisqu'ils vont vous décrire une situation, ils vont vous faire entrer dans une réalité, ils vont vous donner des clés d'interprétation, faire entrer dans la profondeur sensible de l'émotion et aussi de la pensée. Mais ça dépend. Voilà. Elle continue, il y a une certaine pudeur ou chasteté de la parole, donc non seulement du regard, mais aussi de la parole, qui sait, comme l'écrit Yankelevitch, qu'indicibles sont les choses premières, l'existence et la mort, la douleur, la personne, la qualité, le mouvement, l'acte libre. Il y a des choses dont il est très délicat de parler, des situations dans lesquelles il est très délicat de dire une parole, et la parole doit être juste, et ce n'est pas quelque chose qui se maîtrise, en particulier face à la souffrance, face à la mort, l'amour. Voilà. Le troisième domaine de réalité, c'est la distinction entre sphère publique et sphère privée, qui protège le fait qu'on habite à la fois la sphère publique et puis qu'il y ait une sphère privée, dit quelque chose de ce que nous sommes, de ce que ça veut dire être une personne. Nous sommes un être social et politique, c'est dans notre nature, nous faisons partie de l'espace public, nous y agissons. Donc nous pouvons avoir aussi, il y a des choses que nous présentons en public, que nous disons, que nous faisons. Et nous sommes aussi une personne, être une personne, ça veut dire aussi être un être singulier, doué d'une intériorité. Elle dit ontologiquement solitaire. Voilà. Et elle dit cette frontière-là, ce seuil-là, est un peu mise à mal aussi aujourd'hui. Parce qu'il y a un double phénomène, à la fois de l'exposition publique de la vie privée, mais ça, c'est pas nouveau. Les magazines chez le coiffeur vous en donnent tous des... Voilà. Donc, nous sommes friands de savoir comment nos dirigeants politiques ont passé leurs vacances, et ainsi de suite. Et puis aussi, ce qui est plus nouveau peut-être, la privatisation de l'espace public avec les Star Academy et autres, je vous lis quand même parce qu'elle est assez acerbe. Donc le premier phénomène, donc exposition publique de la vie privée, conduit à la dérive de type people qui s'empare de la vie privée de nos dirigeants politiques et la livre en pâture à nos curiosités. Le second phénomène, donc privatisation de l'espace public, triomphe dans les diverses Star Academy qui envahissent le petit écran, la télévision, et nourrissent le fantasme que n'importe qui, quelle que soit la banalité de son existence ou l'insignifiance de son propos, a le droit de passer à la télévision et d'y intéresser la terre entière. Voilà. Et Joël Renan, diagnostic, confession impudique à grande échelle qui nourrit, et ça c'est grave, le voyeurisme secret de chacun. Ça n'appelle pas le meilleur dans le spectateur. Voilà. Donc elle nous montre là que, justement, que quelques mots pour revenir sur ce qu'on vient de lire, ce que l'expérience du corps, du rapport au corps, que la pudeur, c'est cette expérience-là, qui en même temps signifie bien plus. Et du coup, nous voyons aussi que, par exemple, l'éducation d'un enfant a un juste rapport à son corps, à une manière juste de se vêtir, par exemple, ou de se tenir, va lui permettre, va être un chemin pour lui pour découvrir le sens de l'intime et de découvrir sa propre intériorité. Et il va apprendre aussi par là à découvrir que l'autre aussi a une intériorité à partir de laquelle ils pourront tous deux entrer en relation. Alors c'est une voie étroite entre la pudibonderie qui la transforme en mur de béton et l'impudeur qui l'ignore ou la transgresse délibérément. La pudibonderie est presque aussi grave que l'impudeur parce que justement, alors le corps ne manifeste plus sa dimension spirituelle, sa signification spirituelle. L'intériorité ne se révèle plus. Et de même, de l'autre côté, l'impudeur aussi, et le cas extrême étant la pornographie, dans laquelle finalement il n'y a plus de corps, il n'y a plus que de la matière presque. En tout cas, il n'y a pas d'intériorité dans ce corps. Voilà. Et elle nous dit ensuite que le sentiment de pudeur et le sens de la pudeur, ça allait dans le sens de votre remarque, engagent en fait toute la vie de l'esprit, le rapport aux autres, au réel, et même la vie spirituelle. Je lis la suite. On peut prolonger ces analyses au-delà de la sphère de la vie sexuelle et de l'amour interpersonnel. C'est en effet toute la vie de l'esprit qui porte la marque de ce combat spirituel exemplairement signifié par la pudeur sexuelle entre jouir égoïstement et aimer réellement, entre respecter et déflorer. Et elle dit un petit peu plus loin, si elle dissimulait là un secret, la pudeur serait une simple peur égoïste ou une cachotterie jalouse. Or, ça c'est très beau, elle soustrait un mystère où il n'y a rien à cacher. La fraude est le secret du fraudeur, mais la mort et l'amour sont les mystères de la pudeur. Donc on voit un sentiment moral qu'on expérimente dans notre corps, dans le rapport au corps, qui est à la base de l'édifice moral, de la vie intellectuelle, d'une certaine manière à la base, de l'édifice moral, de la vie intellectuelle, de la vie spirituelle. Cela nous laisse, pour ceux qui voudraient lire, il y a ensuite un passage très beau du père de Lubac qui est cité. Je finis par là parce que de toute façon, il faut qu'on fasse la pause après, non ? Ouais. Elle dit qu'en fait, on peut aimer la vérité de manière impudique, une forme de curiosité elle cite saint Augustin qui lèche l'extérieur des choses et qui ne cherche dans les choses que la nouveauté ou ce qui fait sensation. Et puis qui, une fois que cette nouveauté, cet extérieur nouveau est usé, bah, qui passe à autre chose. On peut aimer la vérité de manière impudique ou alors parce qu'on a envie de savoir. Mais on peut aimer la vérité autrement. Et là, elle dit, dans une page des Paradoxes, le père de Lubac, sans employer le terme de pudeur, évoque l'attitude requise, ça c'est pour les étudiants, lorsqu'un étudiant découvre que ses études engagent la réalité de la vie bien au-delà de l'exercice scolaire ou universitaire. À partir de ce jour, écrit-il, la réflexion philosophique prend un autre caractère. On ne se sent plus le droit ni le pouvoir de lui fermer l'accès de sa vie intime, mais en revanche, on n'a plus le droit de la traiter avec la désinvolture de naguère, la réflexion. On n'a plus le droit, ni le goût, de s'amuser à construire et à détruire. C'est vrai pour la réflexion philosophique, mais c'est vrai pour la vie intellectuelle en général. On n'a plus le droit d'entamer avec n'importe qui et n'importe comment des discussions de fond, au risque de semer le trouble en soi et en d'autres. Voilà. Donc ce sentiment qui rejaillit même jusqu'à la vie de l'esprit à partir du moment où on a découvert, comme la pudeur le fait par rapport au corps, que ce qui se joue dans nos actes engage notre intériorité en fait. Voilà. Donc nous allons revenir après la pause. Donc justement on a vu que c'est le sentiment de la pudeur qu'on expérimente dans le corps est à la base de la vie spirituelle et que ça nous laisse entrevoir l'unité de la personne humaine déjà. L'impossibilité de considérer le corps comme de la simple matière, l'enjeu personnel de ce qui se vit dans le corps. Et nous allons voir que cela est vrai, et particulièrement vrai, dès le tout début de l'existence. On parlera de ça après la pause. Ça va ?